Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est à Lyon, dans l'enceinte du Palais des Congrès, que Priorité Santé vous donne aujourd'hui rendez-vous à l'occasion de la réunion mondiale du partenariat pour la couverture santé universelle. L'OMS a réuni sur place des participants venus de 130 pays et des partenaires impliqués dans le développement. Le constat est là. La couverture santé universelle, autrement dit un accès élargi aux soins qui ne fragilise pas les populations sur le plan financier, reste un projet, une intention. Cette CSU fait d'ailleurs partie des objectifs de développement durable, les ODD fixés pour 2030. Et alors que l'échéance approche, eh bien il faut bien constater que la CSU ne progresse pas, et ce, depuis une dizaine d'années. L'OMS le reconnaît. En 2021, 4,5 milliards de personnes n'étaient pas entièrement couvertes par les services de santé essentiels. Alors ce rendez-vous de Lyon constitue aujourd'hui une occasion de faire le point avec les pays concernés, mais aussi d'imaginer des étapes, des échéances, priorités, partenariats pour que les États se saisissent des enjeux du concept de couverture santé universelle et se l'approprient pour que la CSU devienne une réalité au service du plus grand nombre. Journée mondiale de la couverture santé universelle, services de santé essentiels, protection des populations vulnérables, parce qu'aujourd'hui encore, la prise en charge de la maladie, faute de protection sociale, reste un facteur essentiel d'appauvrissement. Alors on va faire un état des lieux, on va parler des perspectives de la CSU avec nos quatre invités, quatre pays ou régions représentées autour de cette table. La Côte d'Ivoire, avec vous, madame, docteur Isabelle Tondokoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la prospective, de la planification et des stratégies au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de la Côte d'Ivoire. Djibouti, que vous représentez, Mohamed Ali Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du ministère djiboutien de la Santé. Le Gabon, représenté par vous, Meres Mabiala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la planification, de l'évaluation et des partenariats au ministère gabonais de la Santé. Et puis pour représenter la région Méditerranée orientale de l'OMS, docteur Awad Mataria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur couverture santé universelle et système de santé pour cet ensemble très vaste et très complexe de 21 pays. On pourra citer notamment la Somalie, l'Irak, la Syrie, le Pakistan ou encore l'Afghanistan, la Libye ainsi que la Palestine.
Priorité santé sur RFI.
Couverture santé universelle, aller du concept vers la réalité. Bien sûr, au-delà des objectifs fixés lors de grandes réunions comme celle-ci, il y a la réalité des populations, les aléas politiques, les difficultés financières, et plusieurs d'entre vous sont directement confrontés à des crises sécuritaires ou humanitaires. On va commencer avec vous, madame Isabelle Tondokoui. Officiellement, les Ivoiriens ont accès à la couverture maladie universelle depuis 5 ans. Une initiative qui a donc été lancée en 2019. Alors, couverture maladie universelle et couverture santé universelle, est-ce que c'est la même chose ?
Je pourrais dire que la couverture maladie universelle, c'est une assurance de santé que la Côte d'Ivoire a entrepris pour sa population, de manière à ce qu'elle puisse avoir accès aux soins sans avoir à payer énormément.
Ça veut dire que c'est une première étape.
Voilà, c'est une première étape. C'est une partie de la couverture santé universelle qui va au-delà, parce que la couverture santé universelle associe aussi également la disponibilité des services, donc l'accessibilité géographique et aussi les services qu'on offre aux clients. Donc ce n'est pas seulement le risque financier qui est représenté par la couverture maladie universelle, mais là, c'est un peu plus que cela.
Ça implique aussi donc l'accès aux soins. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle, on peut dire quelle proportion de la population ivoirienne s'est inscrite dans une base de données de cette assurance santé ?
Oui, aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes qui se sont fait enrôler. Cependant, il y a 5 millions qui ont effectivement la carte en possession. Mais il y a encore des défis pour qu'on puisse vraiment étendre l'utilisation. L'utilisation est un défi.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir cette carte de santé. Pour autant, à la pharmacie ou même dans certains centres de soins, on peut la refuser. Ça peut arriver.
Non, en fait, le défi, c'est surtout les cotisations. Parce qu'il faut dire que le secteur formel, il n'y a pas de souci, mais on a une grande proportion du secteur informel. Et ce secteur informel doit pouvoir cotiser. La cotisation, c'est 1 000 francs par personne et par mois. Voilà. Donc, on est en train de sensibiliser la population pour que cette cotisation puisse se faire, puisse augmenter.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, justement, entre cotisation et secteur informel? Parce que finalement, c'est une économie impalpable. Comment est-ce qu'on peut recueillir ces cotisations quand, docteur Isabelle Tondokoui, ces personnes, elles ne sont même pas inscrites?
Oui, aujourd'hui, bon, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de systèmes. Par exemple, la monnaie par les...
Numérique,
voilà. Ouais. On peut payer sur Orange Money ou MTN Money. Voilà, c'est possible. Donc, ils peuvent payer à partir de ces réseaux-là. Et c'est possible, il y a plusieurs publicités qui sont en train d'être faites pour que ces populations, même informelles, puissent cotiser et avoir accès.
Donc, voilà. L'important, c'est de sensibiliser ces populations.
Oui, c'est de sensibiliser. Et plus les populations cotisent, plus elles vont utiliser leur carte et plus elles vont bénéficier.
Tout à l'heure, j'ai cité quelques-uns des pays de la région Méditerranée orientale de l'OMS dont vous avez la charge, docteur Awan Mataria. Ça n'a échappé à personne que pour beaucoup de ces territoires, hein, de Gaza à l'Afghanistan, de la Syrie à la Libye, bien le défi sanitaire s'est majoré encore par le défi sécuritaire. Est-ce que c'est d'ailleurs possible de travailler sur la couverture santé universelle, docteur Mataria, quand on est ni plus ni moins en situation d'urgence humanitaire?
En effet, en fait, quand il y a des problèmes de sécurité, donc la couverture sanitaire universelle devient de plus en plus importante. C'est là où on va commencer à parler de droit à la santé, de droit à accès aux prestations de soins dont les gens ont besoin. Même si on parle d'un panier de soins qui est assez limité, mais c'est là où les gens ont vraiment besoin d'avoir ces accès. Donc, dans ces situations de crise, de guerre, d'occupation, c'est là où on travaille comme l'OMS pour soutenir les pays, pour définir un panier de soins, pour assurer une manière pour fournir ces services à la population générale.
Alors, 21 pays, des situations très différentes. Pour bien fixer les choses, la CSU comporte plusieurs aspects. Être soigné, payer les soins. Et pour votre région OMS, docteur Awan Mataria, c'est ni plus ni moins la moitié de la population qui n'a carrément pas accès aux prestations de santé. Comment on fait justement? On dit on soutient les pays, mais dans certains de ces pays, il n'y a même plus d'État, ou alors des États qui ont des politiques qui sont complètement contraires aux valeurs de l'OMS. Là, je pense à l'Afghanistan. Plus d'État véritablement, je pense à la Somalie, la Libye, extrêmement complexe, Gaza, un territoire par terre. Comment on fait?
En effet, quand il n'y a pas de gouvernement, donc ça devient de plus en plus difficile parce que la couverture sanitaire universelle, c'est un engagement politique. On commence par avoir une vision, avoir une feuille de route pour achever l'accès aux services. Quand il n'y a pas un gouvernement qui est fonctionnel, qui s'en charge des besoins de la population, c'est là où l'OMS et les autres partenaires internationaux, les autres donateurs viennent ensemble pour essayer de monter des mécanismes pour aider les populations dans ces pays pour avoir l'accès. Par exemple, dans le cas de l'Afghanistan, récemment, avec le changement de régime, l'OMS, avec d'autres partenaires comme l'UNICEF, avec la Banque mondiale, on a essayé de mobiliser l'argent et on a travaillé à travers des organismes non gouvernementaux pour fournir les prestations à la population. Donc, on trouve des moyens à travers lesquels le pays va continuer au moins d'assurer les prestations essentielles dans ces cas-là. Mais c'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis dans ces cas-là. Mais il y a des moyens. Il faut continuer à assurer à ce que les gens continuent de survivre ces situations et continuer d'avoir les prestations dont ils ont besoin.
Les prestations minimum, on comprend bien cet équilibre entre aide internationale et puis les ressources propres au pays, avec le cas de votre pays, le Gabon. Mais Resma Biala, aujourd'hui, comment la population est-elle protégée? Est-ce qu'il y a, à l'image de ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Dr Isabelle Tondokoui de la Côte d'Ivoire, une sorte de carte d'assurance santé?
Au Gabon, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie qui est un outil qui existe depuis 17 ans, depuis 2007. C'est un outil qui a en partie réglé le problème de l'accès du financement aux services de santé. Pourquoi je dis partiellement? Parce que l'outil existe, mais il y a encore de nombreux défis. nombreux défis parce qu'il n'est pas rare qu'on trouve une personne à l'hôpital sans assurance parce qu'elle n'a pas fait le pas d'aller se faire enrôler. L'autre défi, c'est les conventions des structures sanitaires avec la CNAMGS. Parce que deux aspects pour bénéficier de l'assurance maladie, il faut que la personne se fasse enrôler et il faut qu'en face, la structure sanitaire dans laquelle la personne va ait une convention avec la CNAMGS. Donc c'est un outil qui est là, les défis sont encore nombreux.
L'enrôlement, il a un coût, il faut cotiser ?
Non, l'assurance maladie au Gabon est financée par une taxe, la C2S, qui est une taxe de solidarité que chaque personne paye, c'est 1%.
C'est l'équivalent un peu de la TVA en France. C'est quand ils consomment qu'ils payent cette taxe.
Exactement. C'est en plus de la TVA.
D'accord, en plus.
Et il y a de l'autre côté, c'est les contributions des employeurs. Donc, vous avez la part patronale, la part salariale pour ceux qui travaillent. Mais pour les économies, comment faire ? Parce qu'il y a trois fonds, disons-le. Le premier, c'est le fonds privé. Ce sont les entreprises privées qui financent. Le deuxième, c'est l'administration, donc les fonctionnaires. Et le troisième, c'est les fonds économiquement faibles. Le fonds économiquement faible, il prend tout le monde, y compris le secteur informel dont vous parliez tout à l'heure.
Ça veut dire que les personnes du secteur informel, il y a quoi ? Il y a en quelque sorte des commissions qui déterminent si oui ou non elles pourront être prises en charge ou il y a un fonds alloué et quelles que soient les conditions, elles pourront être soignées. Comment ça
quelles
se passe ?
Quelles que soient les conditions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a trois fonds. Quand vous n'êtes pas dans les deux premiers fonds, donc si vous n'êtes pas du secteur privé, vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes de facto dans le fonds des économiquement faibles.
Oui, mais pour un paquet de soins, pas pour tout.
Non, et même que l'assurance maladie, oui, c'est pour un paquet de soins. Mais il y a des paquets de soins, vous avez, comme l'hémodialyse, comme l'accouchement, c'est quand même pris à plus de 80%.
Des soins essentiels.
Des soins essentiels.
Et j'imagine que pour les gouvernements, tout l'effort aussi, c'est au fur et à mesure d'essayer d'étendre ces paquets de soins.
Oui, il faut étendre ces paquets de soins. Et il faut assurer aussi l'accessibilité des services de soins à l'intérieur du pays. Chose qui est encore un défi, parce que, par exemple, la transfusion sanguine, l'hémodialyse, ce sont des services que nous proposons de mettre au service des populations dans les tout prochains mois à l'intérieur du pays.
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'il n'y ait pas des territoires enclavés sur le plan sanitaire. Est-ce qu'on est dans la même configuration chez vous, Mohamed Ali Mohamed, à Djibouti, pour les personnes du secteur informel ? Est-ce qu'il y a une caisse, on va dire, pour les travailleurs ? Et puis une caisse, même si les gens du secteur informel, bien sûr, travaillent, mais ils ne sont pas enregistrés de manière aussi officielle dans des listings d'État ?
Pour Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale a existé depuis plusieurs décennies, mais ça concernait uniquement les personnes du secteur privé. Les fonctionnaires et les employés d'État étaient pris en charge par le secteur public, l'État. Depuis 2014, l'assurance maladie universelle a été élargie à tous les fonctionnaires et au personnel conventionné employé de l'État. Et ça a été très facile parce que les retenues étaient opérées à la source au moment de l'établissement des salaires de ces employés. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes économiquement faibles qui n'étaient pas prises en charge. Avec le ministère de la Solidarité nationale, nous avons mis en place des critères de sélection pour ces personnes économiquement faibles, notamment pour ceux qui se trouvent dans les zones rurales. Et nous avons enregistré à peu près 100 000 personnes. Les personnes enregistrées au niveau de l'assurance maladie sont au nombre de 400 000. Les 300 000 représentent les personnes employées par l'État ou le secteur privé.
Petit cours de géographie hein, oui. Pour rappeler aux auditeurs, Djibouti, c'est un peu plus d'un million d'habitants,
un
c'est ça ?
Un peu plus d'un million, 1 060 000 habitants. Et aujourd'hui, l'assurance maladie universelle couvre à peu près 40% de la population.
Même question qu'à votre collègue du Gabon tout à l'heure, c'est quoi les services médicaux pris en charge par la couverture santé ? J'imagine que là aussi, il y a un paquet de soins.
Oui, l'assurance maladie universelle couvre les consultations, les examens médicaux de laboratoire de radiologie, les hospitalisations, mais il y a des services qui ne sont pas pris en charge. Par exemple, quelqu'un qui a une carte d'assurance maladie ne peut pas aller se faire approvisionner en médicaments dans les structures privées, dans les pharmacies privées. Donc, il n'y a que le secteur public qui peut lui prodiguer les médicaments.
Là, c'est pour les médicaments, mais j'imagine pour les autres pays, il n'y a pas forcément d'assurance pour les médicaments avec l'accès gratuit aux médicaments. Je me tourne vers vous, Mérès Mabiala.
Il y a certains médicaments qui sont pris en charge, pas l'ensemble, disons-le. Le système est dimensionné de telle sorte que lorsque vous allez à l'hôpital, vous êtes hospitalisé, vous avez des consultations qui sont prises en charge, vous présentez une facture. Évidemment, dans la liste, il y a les médicaments qui sont pris en charge et d'autres pas.
À l'hôpital, mais dans le secteur, si on va à la pharmacie du coin, est-ce que c'est la même chose ?
Les pharmacies qui ont la convention avec la CNAMGS, oui. D'accord. Mais il y a un paquet, disons-le, franchement, il n'y a pas tous les médicaments qui sont pris en charge.
Docteur Isabelle Tondokoui, même question sur les médicaments. Certains remboursés, d'autres pas ?
Oui, on a près de 900 spécialités remboursées. Et il faut dire que 90% des pathologies courantes sont prises en charge, soit 170 pathologies. On a même associé dernièrement le diabète et l'hypertension, les formes simples.
Les formes simples. Docteur Isabelle Tondokoui, l'impact de ces dépenses, facteur d'appauvrissement, c'est vrai que c'est un point essentiel parce que la CSU, c'est considéré comme un levier pour éviter de faire tomber les familles dans la pauvreté, voire la misère. Ce sont des configurations qu'on entend souvent. On imagine, on a un enfant handicapé, un enfant malade, toute la fortune de la famille, on pense par exemple à la drépanocytose, hein, tout l'argent, toutes les économies de la famille, voire au deuxième degré, vont y passer. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, véritablement, cette CSU, c'est un moyen de faire baisser le niveau de pauvreté de la population ?
Oui, c'est vraiment un moyen parce que ça permet aux populations de pouvoir se soigner sans tomber dans la pauvreté, comme on a dit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux régimes. Il y a le régime de base, mais il y a aussi pour les indigents qui est un régime totalement gratuit. Donc, la CMU permettra à ces personnes-là de pouvoir bénéficier des soins à moindre coût. Voilà. Il y a un ticket modérateur pour le régime de base où ils paieront 30% de la prestation. Et il faut dire que cette politique-là a permis aussi à l'État de pouvoir renforcer le plateau technique. On a eu plusieurs constructions d'infrastructures pour pouvoir mettre à niveau nos structures sanitaires. Plusieurs réhabilitations sont en train d'être faites. Et vraiment, le gouvernement a mis près de 1 200 milliards dans un programme hospitalier pour pouvoir maintenir ou construire de nouvelles infrastructures.
Y compris avec un maillage territorial dont on parlait tout à l'heure avec votre confrère du Gabon. Maillage territorial en dehors de la métropole.
Parce qu'il y a eu l'initiative de pouvoir faire les pôles régionaux d'excellence en santé. Donc, la Côte d'Ivoire a été repartie en 10 pôles pour pouvoir produire, en tout cas, faire en sorte que les populations n'aient pas à se déplacer à plus de 150 km. Parce qu'avant, les populations venaient jusqu'à Abidjan. Maintenant, ils ont la possibilité et plusieurs pôles sont donc en train d'être mis en place comme ça dans des chefs-lieux pour qu'il y ait tout le plateau technique pour pouvoir les prendre en charge.
C'est vrai que parce que sur le plan financier, il faut aussi intégrer, il y a les soins, il y a les médicaments, mais aussi le transport pour aller jusqu'à l'hôpital. Et des fois, ça aussi, c'est une véritable ruine. Je voudrais juste, avant qu'on fasse une première pause, me tourner vers vous, Mohamed Ali Mohamed, parce que vous parlez de Djibouti, donc on va dire un pays assez petit, population assez restreinte, mais un environnement qui n'est pas facile. Et vous, votre pays, il doit aussi compter avec les pays des alentours, y compris avec des déplacements de population.
Oui. Je voudrais revenir sur un point. On a parfois tendance à confondre couverture sanitaire universelle et assurance maladie universelle. Donc, l'assurance maladie universelle est un moyen pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Et Djibouti, pour assurer la couverture sanitaire universelle, et on a plusieurs moyens. On a mis l'assurance maladie universelle qui est saluée par toute la population. Depuis la mise en place de l'assurance maladie, beaucoup de personnes sont soulagées. Pour ceux qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie, on essaye de mener la décentralisation du système de santé, de rapprocher les structures vers les populations de zones éloignées. Nous avons des postes de santé dans les zones reculées. Il y a aussi des endroits qui ne sont pas couverts par des structures fixes. Donc on met en place ce qu'on appelle des équipes mobiles, des véhicules à bord duquel sont un médecin, un infirmier, une équipe médicale qui partent à la rencontre de ces populations éloignées. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai, Djibouti est un pays stable, est un pays où il y a la paix, mais on est entouré par des pays où il y a beaucoup de problèmes, de conflits, de sécheresse, etc. Nous avons l'Éthiopie qui fait 120 millions de personnes. Nous avons la Somalie qui fait un peu moins de 20 millions d'habitants. Et Djibouti est sur la route de l'immigration des populations qui partent à destination des pays du Golfe. Donc nous avons ces défis-là, voilà, ces phénomènes se répercutent sur notre système de santé et fragilisent le système de santé de notre pays.
Mais on comprend bien qu'ouverture santé universelle, c'est aussi faire preuve de solidarité. On va poursuivre notre débat. Au-delà du constat, parler des investissements, des projets en cours. Madame, messieurs, on va se retrouver juste après le son de Djibouti, justement. Le groupe RTD, Raga Kaekto, dans Priorité Santé. Priorité santé sur RFI, on se retrouve à Lyon au Palais des Congrès à l'occasion de la réunion de l'OMS du partenariat pour la couverture santé universelle, un rendez-vous international qui réunit 130 pays avec comme enjeu central dans de nombreuses régions du monde, comment faire en sorte que se soigner ne plonge pas les familles dans la pauvreté. Quatre invités, quatre réalités, un certain nombre de points communs, on l'a déjà entendu, couverture santé universelle, cela signifie santé pour toutes et tous, mais est-ce que les politiques de santé à l'échelle de votre pays, vous ciblez malgré tout dans ces politiques certaines populations prioritaires? Je me tourne vers vous, docteur Isabelle Tondokoui. Aujourd'hui, la CMU dans votre pays, à terme la CSU, on a bien compris que c'était un objectif, avec dans beaucoup de pays dans le monde et en particulier du Sud, la santé de la mère et de l'enfant comme priorité. Est-ce que justement, aujourd'hui, les assurances santé, elles font en sorte d'améliorer les indicateurs de santé pour ces deux catégories prioritaires?
Oui, parce que dans notre politique de santé, ces deux catégories de personnes sont des personnes vulnérables et qui ont besoin vraiment du soutien du gouvernement pour la santé. Et nos indicateurs ont indiqué que nous n'étions pas très bien lotis au départ par rapport à la santé de la mère. On était à 614 pour 100 000 naissances vivantes. On est maintenant à 385, mais c'est toujours élevé. Et donc, toutes les actions que nous mettons en place, c'est pour pouvoir vraiment baisser ces indicateurs, pour pouvoir vraiment nous occuper de la mère et de l'enfant. Et pour cela, l'État a mis des mesures en place. D'abord, la gratuité ciblée, la gratuité totale pour la mère et l'enfant, qui est toujours en cours.
Ça veut dire quoi? Pour l'accouchement, pour le suivi de la grossesse, les consultations prénatales?
Oui, voilà. Et pour l'enfant jusqu'à 5 ans. Voilà, donc ce sont des consultations gratuites. Et il y a aussi la gratuité pour certaines pathologies telles que le VIH, le paludisme et la tuberculose.
Oui, mais là, il s'agit encore de dispositifs internationaux, c'est le Fonds mondial. Voilà. Donc, ce n'est pas un financement ivoirien à proprement parler.
Le Fonds mondial, mais il y a une partie État.
D'accord.
Voilà, le Fonds mondial, mais l'État aussi contribue.
Il y a une répartition des investissements entre les deux.
Voilà.
Je me tourne vers le représentant du ministère de la Santé du Gabon, qui est autour de cette table, directeur général de la planification et de l'évaluation et des partenariats. Mérès Mabiala, on a parlé du renforcement des soins en santé primaire. C'est essentiel dans tous les pays, c'est une priorité pour l'OMS. Grand défi à l'échelle du continent, ce sont aussi les ressources humaines. Dans l'émission, on entend souvent, il n'y a pas assez de spécialistes. Peut-être qu'il y en a dans les capitales, mais en tout cas, quand on s'éloigne de Libreville, peut-être que c'est beaucoup moins évident. Qu'est-ce que vous faites justement pour renforcer, ça fait aussi partie de la CSU, renforcer l'offre de soins et renforcer l'offre de soignants de qualité?
Bien, de mon point de vue, effectivement, la CSU, ce sont les deux grands aspects, l'offre de soins et puis le financement. Le financement, j'ai dit tout à l'heure qu'au Gabon, c'est en partie réglé. Pour la question de l'offre de soins, il y a d'ordinaire une seule commission d'affectation de personnel sur l'ensemble du pays. Et là, le ministre, depuis un an, en a fait sept. Sept, donc ça va des sages-femmes sur l'ensemble du pays, des médecins spécialistes. On a aujourd'hui des radiologues dans la plupart des régions. Et parce qu'au mois de janvier, nous allons installer deux scanners. Et au mois de mars, un troisième, à l'intérieur du pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de la banque de sang, qui va être aussi installée à partir du mois de janvier, à l'intérieur du pays.
Sans parler de politique, vous avez l'impression qu'il y a un vent nouveau pour la santé publique au Gabon en ce moment?
Ah oui.
Je peux vous poser cette question?
Oui. Le vent est très nouveau et il souffle avec un air de bien-être pour les populations.
Ça se ressent dans la population?
Ça se ressent. Ça se ressent. Je vous parle des scanners qui vont être installés. Aujourd'hui, les scanners sont plutôt dans les grands centres. Alors que là, on va rajouter 3 scanners dans les 3 prochains mois à l'intérieur du pays. Et on espère, pour l'année prochaine, ajouter 2 scanners pour les 2 régions qui resteront.
Et en termes de formation, école de médecine, école d'infirmière, école de sage-femme, là aussi, est-ce que vous mettez de l'argent?
Oui, on a diversifié l'offre de formation. Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 3 universités. Avant, il y en avait une seule. Les militaires ont ouvert une nouvelle université, le privé a pris aussi le pas, il y a des universités privées. En termes de spécialité, aujourd'hui sur le territoire, nous avons la formation des médecins spécialistes en pédiatrie, en chirurgie, en gynécologie et maintenant on a ajouté la radiologie. Nous avons aussi, dans la chirurgie même, les urologues qui vont commencer et les urgentistes.
Donc ça veut dire que vous ouvrez de nouvelles spécialités?
On ouvre de nouvelles spécialités pour tenir compte de la réalité du terrain et faire en sorte qu'on essaie de diminuer les déserts médicaux.
Les déserts médicaux et donc aussi les évacuations sanitaires. Et évidemment, cette santé à deux vitesses, il faut en finir avec cette santé à deux vitesses.
Je suis tout à fait d'accord. Si on pourrait injecter le tiers de ce que nous mettons, on est passé de 20 millions d'euros en 2022 à 15 millions d'euros en 2023. Pour l'évacuation sanitaire, si on peut injecter cet argent dans le système de santé, on gagnerait énormément.
Rapatrier les fonds pour la santé dans le pays. Docteur Awad Mataria, pour la région Méditerranée orientale de l'OMS, est-ce que là aussi, il y a une sorte de paquet de soins minimum, même si bien évidemment, vu l'étendue des territoires dont vous avez la charge, c'est très difficile de le dire. Mais on parlait tout à l'heure de la santé de la mère et de l'enfant. J'imagine que c'est vraiment là encore une priorité.
Oui, en effet, donc, comme il a été dit, quand on parle de couverture sanitaire universelle, donc on parle de l'accès aux prestations, on parle aussi de la qualité de ces prestations et on parle de la protection financière. Je voudrais ajouter un petit point par rapport à la comparaison entre la couverture sanitaire universelle et l'assurance maladie. Parce que comme il a été dit par mon collègue, donc l'assurance maladie, c'est un outil pour arriver à la couverture sanitaire universelle. Mais aussi, la couverture sanitaire universelle vient avec un message d'espoir. Donc, c'est quelque chose qu'on va vers la couverture sanitaire universelle, qu'on va continuer d'avancer vers la couverture sanitaire universelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on aboutit et puis on s'arrête. Donc, l'approche que les pays qui ont réussi à avancer vers la couverture sanitaire universelle ont utilisée, c'est de définir un panier de soins, même un panier basique ou un panier essentiel. Et après, ils commencent à ajouter des prestations. Donc, chaque fois qu'il y a des ressources supplémentaires, qu'il y a une capacité dans le système de santé pour fournir ces prestations, donc on peut ajouter plus de prestations. Donc, nous, dans la région de la Méditerranée orientale, ce qu'on a fait au niveau de l'OMS, on a défini un panier de soins que les pays prennent et puis l'adaptent à leur contexte et puis ils commencent à les fournir à la population. Et chaque fois qu'ils vont reviewer ce panier et puis ajouter plus de prestations. Donc la santé de la mère et de l'enfant, elle fait une partie essentielle de ces prestations. La plupart des pays de la région concentrent et focalisent leur démarche.
Alors, trois représentants de la santé du Sud autour de cette table. On sait que pour ces régions, on a amorcé ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire les infections sont toujours là, mais est venue surajouter la problématique des maladies chroniques. Justement, quand on est dans une dynamique de couverture santé universelle ou couverture de maladies universelles, comment on prend en charge ces maladies? Tout à l'heure, docteur Isabelle Tondokoui, vous avez cité justement le diabète et l'hypertension. Ça vient tout de suite à l'esprit. Quand on a ces maladies, dans la plupart des cas, il faut prendre des médicaments toute la vie ou une bonne partie de la vie. Comment est-ce qu'on fait pour payer? Est-ce qu'il y a des dispositifs spéciaux, publics, d'aide pour le financement de cette santé-là? Pour le diabète, soyons très concrets. Quand on est diabétique de type 2, mais par exemple insulinodépendant, comment on fait pour payer l'insuline quand on vit en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, les médicaments ont été subventionnés, si bien que ça coûte beaucoup moins cher qu'auparavant. Et puis, maintenant que ça a été introduit dans le panier de soins de la couverture maladie universelle. Donc, ça sera pris en charge les formes simples. Et donc, ça sera donc un mode de financement de cette maladie-là. C'est une avancée parce que, comme vous le dites, toutes les maladies chroniques, que ce soit l'insuffisance rénale, l'hypertension, ces maladies-là, on a des difficultés pour les prendre en charge. Donc, c'est déjà un premier pas de pouvoir prendre en charge le diabète et l'hypertension dans le panier de soins. Et ça va donc permettre à pouvoir soulager la population.
Vous dites que ça va permettre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? C'est quelque chose qui va se faire ou c'est déjà fait?
C'est introduit.
D'accord.
C'est introduit. Maintenant, la mise en œuvre, on va pouvoir tirer des leçons. Après, ça vient d'être introduit.
On n'a pas encore le recul.
On n'a pas encore le recul. Mmh. Voilà.
Mais reste Mabiala, même chose à vous. Si on dit quelqu'un qui est diabétique, qui a besoin donc de prendre son médicament tous les jours, voire plusieurs fois par jour, comment est-ce qu'il fait pour payer?
Au Gabon, ça fait partie de ce qu'on appelle affection longue durée. Et c'est pris en charge à 90% par l'assurance maladie.
Donc là, la réponse est claire.
Ouais,
claire. La réponse est claire. Mohamed Ali Mohamed, même chose. Maladie chronique, diabète, comment on finance?
Oui, dans nos pays, on était plus focalisé depuis des décennies sur les maladies transmissibles, le paludisme, la tuberculose. Avec la transition épidémiologique, nous sommes pris de court et on découvre que de plus en plus des gens ont ces maladies qui sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Pour Djibouti, pour les personnes détenteurs de cartes d'assurance maladie, il n'y a pas de problème. Pour les autres, on essaie de gérer au cas par cas. Dans les hôpitaux, on les prend en charge. Ce que nous envisageons de faire, c'est d'aller vers les structures, d'aller vers la population pour faire de la détection précoce et les prendre en charge à temps avant que la personne ne vienne dans un état de problème de santé avancé.
Donc, oui, mais précisément pour la santé, pour les maladies chroniques, ça ne va pas être un état de santé avancé puisqu'il faut qu'il y ait un suivi au long cours. Comment on fait pour ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois? Oui. Ce n'est pas simplement d'aller aux urgences.
Non, non, non. Non, je parle pour les autres. Pour ceux qui ont déjà des problèmes de santé, on essaie de les prendre en charge avec l'assurance maladie universelle, mais aussi dans nos hôpitaux, parce qu'une personne qui arrive à l'hôpital n'est pas renvoyée à Djibouti. Elle est prise en charge.
Alors précisément, tout à l'heure, vous parliez de Djibouti, Mohamed Ali Mohamed, et des besoins de la population, mais aussi tous ces événements qui fragilisent votre système de santé en général. Est-ce qu'il n'y a pas une tension dans certains centres de santé par rapport à cet afflux imprévisible? Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'imprévu quand on est dans une zone géographique qui est un véritable carrefour de population?
Par exemple, j'ai cité tout à l'heure des épidémies de diarrhée qui sont provoquées par ces migrants. Quand on est face à ces situations, nous avons plusieurs partenaires qui nous accompagnent dans la prise en charge de soins. L'OMS, l'UNICEF, l'OIM. Et quand on est face à des urgences, on essaye de réunir tout le monde pour faire face à ces situations-là. Maintenant, si je vous explique le problème de santé au niveau de notre pays, dans les zones urbaines, les infrastructures sont nombreuses. Le problème ne se pose pas. Nous avons le secteur public, le secteur parapublic et le secteur privé qui se développent. Le problème, c'est dans les zones rurales. Et c'est dans ces zones-là que les migrants traversent et ils fragilisent nos structures de santé. Et dans ce cadre, nous avons l'Organisation internationale de migration qui est à Djibouti, mais aussi le HCR qui nous accompagne pour prendre en charge les réfugiés qui sont dans 3 camps de réfugiés à Djibouti.
Alors on perçoit bien ce double attelage, d'un côté le financement public et puis l'aide internationale. On va parler précisément pour conclure notre échange de ce chemin vers l'autonomie des pays en matière de financement des dépenses de santé.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Avec cette autonomie en matière de financement des dépenses de santé, c'est à la fois une nécessité, mais ça reste encore aujourd'hui pour un certain nombre de régions et de pays un défi hors de portée. Sur ce point, j'aimerais avoir votre point de vue, chacun d'entre vous. Mohamed Ali Mohamed, construire la CSU qui corresponde aux besoins de la population, améliorer la santé en puisant sur ses propres ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les pays donnent suffisamment pour la santé ou finalement, elle se repose encore énormément sur l'international et sur le financement des bailleurs?
La couverture sanitaire universelle est un engagement planétaire. Hein. C'est tous les pays du monde entier qui se sont engagés. Mais par la suite, on a des pays qui traversent des difficultés, qui n'ont pas les moyens. Et il y a un système de solidarité qui se met en place à l'intérieur des pays. Les gens qui ont les moyens aident les pauvres, mais au niveau mondial aussi, nous avons des pays amis qui nous accompagnent pour justement atteindre cet objectif. Mais à long terme, le pays doit réfléchir pour assurer la garantie de soins et c'est ce que fait notre pays pour justement atteindre les objectifs.
Djibouti s'y essaye. Question importante sur la sensibilisation. C'est vrai qu'on a parlé de la formation des soignants, on a parlé de l'installation des centres de santé qui en est le plus avec du matériel à la hauteur, mais il y a aussi faire venir les populations vers le soin, informer, parler prévention. C'est quoi justement? Est-ce que ça aussi, ça entre dans le cadre de la couverture santé universelle?
Oui, la participation communautaire est quelque chose de très important. Nous avons mis en place la stratégie communautaire, c'est de faire prendre conscience à la population qu'ils peuvent justement améliorer leur santé, faire en sorte qu'ils fassent de la prévention eux-mêmes, ne pas attendre à la dernière minute pour aller à l'hôpital, parce que la politique de prévention est aussi une priorité du ministère de la Santé. La sensibilisation est importante. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnes handicapées, les personnes à besoins spéciaux. Pour Djibouti, toutes les personnes qui ont des problèmes d'handicap ont une carte d'assurance maladie universelle. Donc, toutes ces personnes sont prises en charge gratuitement et ça, c'est une avancée. Pour la migration, pour les réfugiés, le pays aussi fait en sorte qu'il y ait une inclusion de ces populations migrants et réfugiés.
Docteur Isabelle Tondokoui, question un petit peu abrupte. Est-ce que les États prennent suffisamment leurs responsabilités pour financer la santé de leurs concitoyens ou est-ce qu'ils se reposent encore trop sur l'extérieur?
En Côte d'Ivoire, c'est vrai que le budget de la santé est encore loin des objectifs fixés. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Par exemple, quand on analyse le budget de la santé, on se rend compte que 77% proviennent de sources de l'État. Et que quand on regarde aussi les promesses que le gouvernement a faites, Par exemple, à Oslo, en 2018, le gouvernement a accepté d'augmenter de 15% chaque année le budget de la santé.
Cette gouvernance en santé, ça passe aussi par des questions qui ne sont pas directement médicales. Je pense en particulier à la lutte contre la corruption. C'est-à-dire que ces 8% du budget arrivent vraiment aux populations. Est-ce qu'il y a aussi des outils, parce que ce n'est pas directement la CSU, mais ce n'est pas très loin non plus de la CSU, que l'argent qui est promis à la santé arrive à la santé?
Oui, plusieurs actions sont en train d'être menées par rapport à ça. En matière de gouvernance, maintenant, il y a des contrats de performance qui sont faits. Il y a du contrôle, il y a de la redevabilité. Donc, ça s'améliore. Il y a beaucoup de défis, mais de plus en plus, on voit qu'il y a des contrôles de la redevabilité, si bien que l'argent est utilisé pour pouvoir faire ce qu'il faut. Je voulais juste ajouter par rapport à l'expérience de la Côte d'Ivoire par rapport aux ressources humaines. On se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, les ressources humaines, c'était un problème et c'est toujours un problème, mais des efforts aussi ont été faits, de telle sorte que les écoles de formation, nous on les appelle les INFAS, aujourd'hui, on est passé de près de 3 000 apprenants à 10 000 apprenants. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y a près de 62 % du personnel de la santé qui sont à l'intérieur du pays, contre 32 % à Abidjan. Donc vraiment des efforts.
Une meilleure répartition des personnels de santé. Couverture santé universelle, problématique portée par l'OMS, on l'a bien compris à l'occasion de cette réunion de Lyon, docteur Awan Mataria, un engagement international avec des difficultés économiques minées aussi par le repli dans un certain nombre de pays. Là aussi, on voit que la santé et la politique, ça se rejoint. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes de voir certains bailleurs historiques, on va dire simplement les pays riches, donner moins pour les autres, faire moins preuve de solidarité? C'est terriblement dans l'air du temps, avec notamment un certain nombre de changements qui se préparent du côté de Washington. Est-ce que c'est une vraie crainte du côté de l'OMS?
Tout à fait. En fait, on a beaucoup de craintes par rapport au financement de la santé au niveau global, mais aussi au niveau national. C'est pourquoi, au niveau de l'OMS, ce qu'on essaie de montrer, c'est que les dépenses sur la santé n'est pas vraiment un coût, mais c'est un investissement dans l'être humain, un investissement dans le bien-être, qui va aboutir à améliorer l'économie des pays. Et c'est quelque chose dont tous les pays ont besoin, surtout après Covid, où il y a l'économie au niveau global n'est pas assez forte comme l'était peut-être avant. Donc, c'est pourquoi il faut investir dans la santé pour investir dans l'économie. Et si vous me permettez, par rapport aux dépenses, parce que dans notre région aussi, il y a un problème vraiment dans l'investissement dans la santé. Donc, la région de la Méditerranée orientale compte à peu près 670 millions d'habitants.
670 millions d'habitants.
D'habitants, c'est à peu près 9% de la population globale, mais dépense moins de 2% de ce que le monde dépense sur la santé. Et c'est surtout parce que, comme vous l'avez bien dit, c'est parce que les États n'approprient pas assez d'argent pour la santé. Donc, dans le budget de l'État, on ne donne pas assez d'argent pour la santé. Donc, c'est vraiment un message qu'on utilise quand on a l'occasion de parler avec les ministères de finances, qu'il faut allouer plus d'argent pour la santé, pas seulement améliorer l'état de santé de la population, mais aussi pour investir dans l'économie, dans la stabilité des pays, ce qui est quelque chose de très important.
Ça fait un ruissellement pour toute l'économie du
pays.
Moderniser la santé, ce sera le mot de la fin avec vous, Mairesse Mabiala. C'est vrai qu'on a parlé d'une amélioration, santé primaire, etc. Mais aussi, dans certaines régions, en finir avec une véritable santé à deux vitesses, parce qu'il y a ceux qui ont les moyens de se soigner, et puis il y a les autres. Est-ce que justement, tout ce qui est mis en place au niveau des investissements publics pour la santé, c'est aussi un facteur de réduction des inégalités?
Oui, effectivement, parce que l'État a énormément investi ces dernières années. Il y a quelques semaines, nous avons livré 8 hôpitaux départementaux. Pour vous caricaturer un peu, l'hôpital départemental est celui qui est déjà un peu plus proche des populations. Et là, nous sommes sur un projet de réhabilitation de 4 hôpitaux régionaux. Tout ça, c'est en même temps pour pouvoir améliorer l'offre de soins et garantir un meilleur accès de services aux des populations.
Avec voilà. Le défi de la gouvernance, là aussi, je ne vais pas cristalliser ou stigmatiser sur certains pays en particulier, mais c'est vrai qu'il y a des réputations aussi à rétablir. Gros, gros travail sur la lutte contre la corruption.
Gros, gros travail. Comme nos collègues de Côte d'Ivoire, les responsables de structure sont assujettis au contrat de performance. Ils ont une tutelle financière administré par le ministère de la Santé, le ministère des Comptes Publics. Ils ont une tutelle technique du ministère de la Santé. Et donc, c'est quand même des études de gouvernance qui permettent de faire en sorte qu'il y ait quand même une surveillance.
Et si on disait demain, un objectif pour le Gabon pour améliorer la santé publique, ce serait quoi?
Le défi, rapprocher l'offre de son population.
C'est-à-dire géographique, surtout pour
géographique,
vous. Géographique. Géographique. Un grand merci à tous les quatre d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé ici au Palais des Congrès de Lyon à l'occasion de ce rendez-vous organisé par l'OMS. Plusieurs rendez-vous pour nos auditeurs. Demain, bien sûr, notre émission Questions de femmes. Et mardi prochain, hein, prenez date, puisque c'est ici même à Lyon que nous allons nous retrouver. Ce sera l'occasion de l'inauguration de l'Académie de l'OMS. Reportage pour découvrir ce centre international de formation dédié aux soignants du monde entier. On a justement parlé au cours de l'émission des pénuries en termes de ressources humaines dans ce domaine de la santé. L'Académie de l'OMS a été créée pour cela, former plus, mieux, pour améliorer l'accès aux soins. Et avant de nous dire tout à fait au revoir, on va écouter cette fois le son du Gabon, et oui, avec Pierre Akendegué, Nkéré sur RFI.
Doni daba kiliwa kere kere undo narugo kiliwa letin kere nyarondiwa dono neginia kere kere okuwa miega gembiabie ande jogorema. Nango moka zimbiwe, kedwa no miega fangijua. Nanyaneno, ongwe, hari hari eniwe, ongwe. J'arrive de l'autre côté, la rivière de la rivière. Je planque la ma canne à pêche, ma liberté à l'occidental. Il se fut comme nénuphar, la rivière et la rivière. Et tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime. Nyango moka zimbiwe, kedwa no miega fangijua. Nanyanena, ongwe, hari hari eniwe, ongwe.
Priorité santé consacrée à cette réunion mondiale du partenariat pour la CSU, c'est fini. Une émission réalisée ici à Lyon par Tiffany Menta. Merci à Ophélie Lassen qui m'a aidé à la préparer. Demain, dans notre émission Questions de femmes, nous allons parler des accidents de la vie courante, intoxication, brûlure, chute, comment rendre son cadre de vie plus sûr, comment réagir, les premiers secours en cas d'urgence. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe.